en toute liberté.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Djoliba TV News. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service des citoyens et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité est un habitué de ce plateau. C'est aussi une figure majeure du M5-RFP, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des Forces Patriotiques, l'un des porte-parole justement du M5-RFP aujourd'hui, qui est toujours dans la dynamique de défense de la transition. On va lui poser des questions justement sur la marche de la transition, la trajectoire de la transition, le léger report de la présidentielle et puis d'autres questions d'actualité. Vous l'aurez compris, notre invité, Jamil Bitar. Jamil Bitar, bonsoir.
Bonsoir.
Jamil, merci de répondre à notre invitation.
C'est toujours avec plaisir que je me retrouve sur ce plateau.
Le plaisir est partagé. Vous êtes un peu... fait un peu rare ces temps-ci, ça va? Jamil se porte bien?
Oui, Jamil se porte bien. J'avais un peu de soucis de santé. Et Dieu merci, je me porte mieux aujourd'hui. Et j'avais aussi effectué un petit voyage pour essayer de mettre les esprits en place, comme on le dit.
D'accord. Okay, Jamil Bitar, aujourd'hui, le Mali... Et quand vous regardez le pays, on vous demande, on pose cette question, comment le pays se porte, qu'est-ce que vous répondez?
La question, elle est un peu sensible. De mon point de vue personnel, nous avions eu à mener un combat qui nous a amené dans cette situation aujourd'hui de transition. Et vous avez parlé du M5-RFP. Et aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a eu des avancées. On le dit souvent, mais toujours peut mieux faire. Parce que quand nos préoccupations premières sont déjà prises en charge, moi, je pense que quelque part, on peut dire que sur le plan sécuritaire, déjà... Il y a eu une avancée considérable. Okay. Il y a des résultats par rapport à cela. Et les réformes institutionnelles que nous avions souhaitées également aujourd'hui sont en de bonnes mains, comme on le dit. Et également la lutte contre la corruption et la délinquance financière, qui était également un cheval de bataille pour nous également. Je peux dire sans me tromper que les dossiers sont en train de bouger. Les lignes sont en train de bouger. Et maintenant, concernant le dernier volet, vous avez parlé des élections. On a parlé d'un léger report, mais pour moi, aujourd'hui, cette question doit être revue. Parce que nous avions d'autres priorités qui ne sont pas aujourd'hui les élections. Et notamment, quand on regarde l'environnement, on comprend aisément que il y a d'autres choses à faire.
Ok, quand vous dites qu'il y a d'autres choses à faire et puis que l'élection n'est pas une priorité, ben on est quand même dans une transition, Jamil Bitar, d'accord avec moi, et que vous n'avez pas mandat du peuple pour rester au pouvoir de façon indéfinie.
Oui, mais mon frère, vous parlez de quelle démocratie? On parle de la démocratie à la française, on parle de la démocratie à l'américaine, on parle de la démocratie à l'allemande ou... Mais pour moi, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que les problèmes que nous avions aujourd'hui, est-ce que ces problèmes sont en train d'être résolus? Est-ce que le pays il commence à se porter mieux? C'est ça la grande question. Vous savez, aller dans des élections tripatouillées, des élections qui vont nous amener à des contestations, qui peuvent nous amener à d'autres trucs, moi, je pense qu'il faut... mieux préparer ces élections aujourd'hui pour qu'il y ait le moins de contestations possibles quand nous allons aller à ces élections. Vous savez, pour moi, le fichier électoral, il faut continuer à le toiletter. Pour moi, l'histoire des cartes biométriques également, Il faudrait que les Maliens, de façon générale, chacun puisse accéder à sa carte de façon correcte. Okay. Et il faudrait également que, sur le plan sécuritaire, et qu'on le veuille ou pas, le territoire n'est pas tout à fait sécurisé à 100%. Et il n'y a pas de Maliens de première zone et de Maliens de seconde zone. Pour moi, nous avions tous les mêmes droits. Il faut que nous puissions donner la latitude aux oui. Maliens d'aller voter de façon...
Oui, j'avais le temps, mais quand vous dites ça, c'est comme si, quand on regarde dans le rétroviseur, la transition, dans un premier temps, c'était 18 mois. On est allé pour 18 mois avec Bandao, et puis après, il y a eu un second coup d'État, ce qu'on a appelé le coup d'État dans le coup d'État, avec Assimi Goïta. Vous, au niveau du M5, vous avez appelé ça la rectification. Et on est allé à 18 mois encore. Et puis, après, vous dites qu'il faut aller 24 mois, que les 24 mois ne seront pas négociables. Bon, finalement, aujourd'hui...
Je vais vous dire, oui. Je ne me dédie jamais. Okay. Et si vous avez quand même, dans l'esprit ou dans la mémoire, je dirais, j'étais la première personne à proposer un mandat de 5 ans pour la transition.
Dès le départ.
Dès le départ, les images encore sont là. Okay. Et je ne me dédie pas.
C'est un mandat.
Oui, j'ai même dit comme ça, un mandat de transition. Okay. Parce que je voulais qu'il y ait un pacte qui soit scellé entre les autorités de la transition et le peuple. Okay. Par rapport à un certain ensemble de questions qu'on devait résoudre de façon pérenne. Pour que nous puissions avancer. Et à l'époque, je me souviens encore, si ma mémoire elle est bonne, et mon écrit là-dessus, c'est mon regard sur le Mali. Je l'avais prédit avant même la chute de Ibeka. Donc, quelque part, j'avais mené une réflexion, parce que pour moi, une transition bâclée, une transition en tout cas qui n'aurait pas atteint un certain nombre de résultats, ce serait comme si c'est un éternel recommencement où nous devions revenir à la case de départ. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est bon d'aller aux élections, comme certains le souhaitent aujourd'hui, mais moi je souhaiterais qu'on se donne les possibilités, les moyens pour y aller, mais de façon vraiment correcte.
Oui, c'est quoi pour vous de façon correcte? Ça veut dire que en février et mars, pour vous, c'est très tôt pour aller à des élections en février ou mars 2024.
Oui, moi je pense que
il faut prolonger la transition.
Il faut prolonger la transition et il faut nouer peut-être un pacte national pour que nous puissions vraiment, parce que une élection nécessite des moyens. Aujourd'hui, tout le monde sait que, avec la pression de la communauté internationale, notamment même de la CDAO au niveau de la BCAO, nous avions quand même des difficultés. Et c'est le lieu pour moi même de féliciter le ministre des Finances qui fait des gymnastiques incroyables pour pouvoir satisfaire ne serait-ce que les priorités du pays. Aujourd'hui, on a tous conscience que, quelque part, il faut les moyens, il faut de l'argent pour régler un certain nombre de questions liées à tout cela. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, si vous allez questionner les Maliens pour demander est-ce que le problème énergétique et les élections, s'ils devaient choisir entre les deux, vous pensez qu'ils vont prendre quoi? Régler le problème de l'électricité, n'est-ce pas? Moi, je pense que...
Mais le problème de l'électricité, si ce gouvernement n'arrive pas à gérer, vous pensez qu'un autre gouvernement n'est pas capable aussi de le régler?
Non.
Parce que le problème de l'électricité le problème est venu avec les autres
nations. Oui, mais ce problème de l'électricité aujourd'hui, elle est structurelle, elle n'est pas tombée comme un morceau de cheveux. Vous savez, les gens, souvent, veulent, avec un bâton magique, régler tous les problèmes du Mali. Ce n'est pas possible. Ce problème énergétique, il date de longtemps.
Oui, mais Jamel Bitar, c'est pour ça qu'on a dit qu'une transition, ils sont nombreux qui disent qu'une transition, c'est une parenthèse.
Oui.
Voilà, mais vous, vous ne voulez pas fermer la parenthèse? Vous voulez toujours dire aux Maliens, il faudrait qu'on pose, on n'est pas prêt. Quand est-ce que vous serez prêt?
Moi, je vais vous dire. Oui. Non, ce n'est pas quand est-ce que je serai prêt. Cette question mérite d'être posée aux autorités. Moi, je donne mon opinion par rapport à ma...
ensemble, c'est la même ligne.
Moi, je donne mon opinion par rapport à la vision. Moi, je ne suis pas dans l'exécutif. Je ne suis pas un acteur majeur de l'exécutif.
Okay.
Mais quelque part, je parle de vision. Quand je vous parlais tantôt du départ de la France, de l'aménagement, de Barkhane, etc., etc., à l'époque, même du G5 Sahel.
Vous avez même brandi un carton rouge contre l'aménagement.
Bon, oui. La CEDEAO, tout ça là, oui. Notre sortie de la CEDEAO, les gens me prenaient souvent de... Certains me traitaient même d'un demi-lettré. Mais qu'à cela ne tienne, l'histoire, au fur et à mesure, me donne raison par rapport à certain ensemble de questions. Moi, je pense aujourd'hui que et ce n'est pas une courbe de vitesse. Mm-hmm. Pour un État, quelques mois, pour moi, ce n'est rien.
Okay.
Mais il faut faire les choses comme ça se doit. Et je profite de l'occasion pour le dire. Mm-hmm. Pour moi, pour même aller aux élections, j'ai demandé la dissolution de toutes les formations politiques. Parce que pour moi, on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien.
Mais pourquoi vous êtes contre, c'est-à-dire les formations politiques? Est-ce que vous pensez que ces formations-là vous empêchent, vous, peut-être, si vous voulez, d'être candidat?
Moi, je ne serai pas candidat.
Okay.
Je vous mets à l'aise.
Pourtant, sur ce plateau, vous avez une fois dit que vous serez candidat si demain il y a élection.
Non, je vous le dis parce que, bon, chaque chose a son temps.
Vous avez fait un rétro-pédalage?
Non, ce n'est pas un rétro-pédalage. Parce que moi, je pense aujourd'hui que les destinées du pays sont entre les mains de quelqu'un qui peut nous conduire à bon port aujourd'hui.
Okay.
Donc, moi, je ne suis pas un obsédé.
Mais la charte, la charte de la transition, pardon, interdit à cette personne d'être candidat.
Moi, je ne suis pas. Mais on le dit en bon bambara, c'est bencan, c'est des accords qu'il faut ficeler si le peuple décide demain. Mais vous savez, on a des royautés dans certains pays, mais qui se retrouvent au niveau de toutes les instances du monde pratiquement. Mais ils veulent nous imposer quoi aujourd'hui? Cette démocratie
à la fin. C'est la démocratie le problème ou bien justement parce que vous n'êtes plus à l'aise avec la question du mandat, vous voulez qu'on parte carrément à une monarchie constitutionnelle, c'est ce que vous êtes en train de dire?
Non, moi je ne le dis pas parce que vous savez, quand vous regardez un peu l'architecture, nous avions nos propres valeurs sociétales qu'il ne faut pas ignorer. Un chef de village, quand il est là, c'est pour la vie.
Okay.
Vous êtes d'accord avec moi? Il est entouré de conseillers. Le village il tourne bien, à tort ou à raison. Vous savez, notre société était bel et bien organisée et gouvernée. Et nous n'avons pas de leçons à prendre ailleurs. Vous savez, comme on le dit en bon bambara, quand vous sautez avant le propriétaire du truc, vous risquez de sauter deux fois. Mais nous, on a brûlé des étapes pour se retrouver dans une démocratie et qui, malheureusement, on est rattrapé.
Mais je vais le dire, qu'est-ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui au Mali?
On a un fait ici. Moi, je vais dire
que la démocratie ne marche pas. C'est réinventons.
Et réinventons
notre modèle. C'est ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui au Mali.
Oui, c'est ce que moi je dis. Okay. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui.
Okay.
Et aujourd'hui, moi je le dis sans modestie, je le dis. On est en fin de cycle. Pour une certaine classe politique qui doit comprendre aujourd'hui que l'heure n'est plus à cela. Nous avions fait un exercice, je veux dire, pendant 3 décennies, pratiquement. Aujourd'hui, on est en fin de cycle. Aujourd'hui, nos aînés, nos papas doivent comprendre que il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, et moi, je ne me vois plus dans ce élan de 300 formations politiques aujourd'hui, avec peut-être combien de projets de société à offrir aux Maliens. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est pourquoi j'avais demandé en son temps également la dissolution de toutes les formations politiques, parce que moi, je veux qu'on arrive à reconstruire une nouvelle place politique. Je ne dis pas d'inventer des nouveaux Maliens, mais quelque part, les plus assidus vont continuer à être des conseillers, à donner des orientations, etc. Mais il est quand même évident aujourd'hui que nous revoyons ce modèle, en tout cas, que nous avions...
Oui, maintenant, supposons qu'on est dans... Aujourd'hui, nous sommes dans une transition dirigée par des militaires. Est-ce à dire que vous voulez que ces militaires continuent de gérer le pays ad vitam aeternam?
Non, parce que aujourd'hui, le risque, c'est quoi aujourd'hui? Oui. On a un risque. Okay. Nous partons aux élections. Il y a X ou Y qui vient au pouvoir. Tout ce que nous avions abattu comme, en tout cas, résultat, entre autres, on risque de se retrouver dans un cycle qui va nous ramener à la case de départ. Tout ce que nous avions eu peut-être à faire partir vont revenir non seulement par la fenêtre, et d'autres viendront même par la grande porte. Et nous risquons de nous retrouver...
Vous dans... risquez, vous, de tout perdre, pas le pays.
Non,
vous.
Non, pas nous. Oui. Moi, je le dis, moi je me bats pour mon pays. Okay. Je ne me bats pas pour ma propre personne. Okay. Et j'ai dit, je ne suis ni demandeur ni preneur. Je l'ai dit depuis le début de cette transition. Et Dieu est mon témoin. J'ai gardé cette ligne et je continuerai à garder cette ligne. Moi, ma priorité aujourd'hui, c'est le Mali. Et si je vois des choses qui ne vont pas dans le bon sens de notre lutte, je suis prêt à me sacrifier pour ça. Okay.
Donc ce n'est pas le M5, vous, le M5, RFP qui va demander des dates, des dates pour les élections, non? Vous n'allez pas imposer des dettes pour aller à des élections. Vous ne le ferez pas. Parce que pour vous, ce n'est pas une priorité.
Non, mais aujourd'hui, le chef du gouvernement, c'est le président du comité stratégique du M5-RFP. Oui. Nous, de façon intelligente, de façon responsable, je pense que nous sommes dans la gestion du temps. Nous ne disons pas qu'il n'y aura pas d'élection. Mais pour moi, je n'ai pas dit j'engage le M5 par rapport à ça. Oui. Mais je parle en fonction, en tout cas, de la compréhension même que j'ai de la situation aujourd'hui.
Oui, mais vous avez pris un engagement justement pour faire des élections. On se rappelle de la levée des sanctions de la CEDEAO. Vous avez dit on va aux élections en février, en mars 2020.
Qui l'a dit?
Les autorités.
La conférence. Quand les Maliens se sont retrouvés, mais moi je pense même que ça nous a été imposé, entre autres.
Qu'est-ce que vous avez été imposé?
Les 18 mois, ça a commencé par 18 mois, les négociations sont allées dans ce sens, après il y a eu d'autres...
24 mois, oui.
Après il y a eu 24 mois.
Maintenant vous voulez combien de temps? Justement, non. Parce que les Maliens ont besoin, parce que nous on pose la question, que nous sommes le relais de l'opinion. Nous sommes le relais de l'opinion.
Excusez-moi, je ne suis ni le ministre de l'administration territoriale, je ne suis ni l'ÉJ, je ne suis ni le président de la transition, le gouvernement.
Vous dites que les élections n'est pas une priorité.
Pour moi, j'ai dit.
Ah, pour vous, Djamil?
Pour Djamil Bitar aujourd'hui.
Ah, pour le M5?
Non. Okay. Je ne peux pas engager le M5 par rapport à ça. J'ai dit ma vision propre à moi aujourd'hui. Je pense que nous avions d'autres priorités que d'aller dans l'immédiat à des élections. Okay. Ça, c'est ma propre conviction.
Quand la question de la candidature va se poser au sein du M5-RFP, qui va présenter le M5 ou représenter le M5 à la présidentielle? Et quel serait votre point de vue? Ce serait le même point de vue? Vous allez dire non, il ne fallait pas... Voilà.
Non, moi je le dis franchement, je ne suis pas candidat et je ne serai pas candidat. Ça, vous pouvez vous rassurer par rapport à ça. Maintenant, moi, la candidature idéale pour moi aujourd'hui, c'est la candidature de Assimi Goïta.
Mais Assimi n'a pas dit que c'est la candidat. Est-ce que vous êtes en train de préparer Assimi ou de pousser Assimi à être candidat?
Moi, je ne le pousse pas. Il est mature, il comprend vraiment Je pense que c'est un militaire aguerri et qui a porté la tenue. Et quand vous portez la tenue, je pense que aucun sacrifice ne peut être de trop pour lui. Si les Maliens, peut-être que je ne battrai même pas campagne, parce que je le dis, il y a un temps pour tout. Moi, j'imagine aujourd'hui, je suis un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui, avec le temps, s'est retrouvé par la force des choses dans la politique. Mais après cette transition, je pense que je retournerai dans mes amours. Okay. Mes amours, c'est quand même le monde des affaires. Je ne suis pas un administratif et j'ai conscience aujourd'hui que j'ai mouillé le maillot quand il le fallait. Et je continuerai à assister. Parce que pour un pays, on a toujours besoin.
Mais Tarkan, pourquoi vous fondez sur, vous insistez sur la candidature du président Assimi qui n'a pas dit.
Parce que nous avions pris.
La charte même.
Nous avions pris.
Il est parti. Pourquoi vous insistez?
Moi, je n'insiste pas, mais je dis c'est ma vision des choses. Je n'impose pas. Et je ne peux pas obliger Assimi à être candidat. Ma vision, c'est quoi aujourd'hui? Je pars du fait d'une logique. Nous sommes dans un processus. Et ce processus, nous avions chassé pratiquement tous les envahisseurs. Je veux parler de la France et d'autres nations, etc. Nous les avons chassés pratiquement maintenant. Et aujourd'hui, ils cherchent tous les moyens pour nous faire... revenir encore dans l'ancien système. Et l'homme qui est pratiquement à la tête de l'État pour nous amener jusqu'à ce point, je souhaiterais que nous soyons dans un point de non-retour. Quel que soit le président qui viendra après Assimi, que nous ne puissions plus revenir à la case de départ. Voilà ma vision des choses. Sinon, je le dis, et peut-être que les gens sont en train de m'écouter, mais ce qui est évident, je ne connais même pas la couleur de la porte de son bureau.
Mais ce n'est pas. Mais qu'est-ce que vous pensez aussi de ceux qui disent que Assimi doit faire comme l'ancien président, votre ancien patron, votre ancien mentor, et le président Mahamadou Mani Touré, voilà, de ne pas être candidat et puis peut-être de prendre date avec l'histoire.
Vous savez, en politique, les gens jouent à l'intelligence, mais le Mali n'a plus besoin de ça. Moi, je pense que il y a eu des erreurs par le passé et ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas une question de présidence qui se pose aux Maliens, mais il faudrait que chacun puisse jouer sa partition. Et si nous arrivons à jouer notre partition de façon correcte, moi je pense que le pays, c'est vrai, c'est difficile, mais nous allons nous en sortir. Et de bon cette fois-ci. Et c'est ça le plus important.
Ok. Si on ne fait pas d'élection, si les autorités n'arrivent pas à faire des élections aux dates indiquées, il faut attendre aussi à de nouvelles sanctions de la CEDEAO. Votre CEDEAO que vous n'aimez pas beaucoup.
Mais moi, je pense que l'histoire de la CEDEAO, est à l'agonie maintenant.
La CEDEAO est enterrée définitivement.
C'est pas enterrée, mais bon. Du plomb dans les ailes aujourd'hui. Moi,
donc vous ne misez même plus sur, vous ne comptez même plus sur les sanctions de la CEDEAO.
Mais nous continuons à subir les sanctions de la CEDEAO, notamment au niveau de la BCAO. Vous avez vu que les finances du Mali souffrent énormément parce que quelque part, nous avions trop de pression. Les banques pourront vous en témoigner, etc. Et ils ont dit qu'il y a eu des levées de sanctions, mais en réalité, et on est en train de nous axifier tous les jours. Et moi, je pense que on dit « vis-à-vis-à-sini »« ikasa-iki-resoro », c'est-à-dire qu'en traduction, que vous voulez
aujourd'hui ou demain,
les cas, vous allez mourir. De toute façon, moi, je pense que nous devons ressouder les coudes et essayer d'avancer. Et moi, je salue, entre autres, l'alliance que nous avions
tissée. Oui, on va en parler, avec, l'alliance des États du Sahel, l'AES. Mais parlons maintenant de l'actualité, cette actualité où l'Algérie a reçu des éléments du CSP Alger. On dit même que l'imam Mamoudou se trouve présentement, il était à Alger. On a vu que ça fait un grand bruit sur les réseaux sociaux. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire, cette actualité?
Je pense quelque part que l'Algérie continue à jouer une carte qui est très dangereuse. Okay. Et vous savez, ces accords, dits accords d'Alger, en réalité, c'était un grand piège pour les autorités du Mali. Et ça avait été signé avec une lame sur le cou, pratiquement. Et ça nous a ramené à quoi aujourd'hui? Les problèmes du Mali doivent être résolus par les Maliens. Je pense que l'Algérie est un bon ami du Mali, entre autres, mais les amitiés ne peuvent pas s'ingérer dans une famille de façon pérenne.
Mais l'Algérie, quand même, c'est le médiateur.
Non.
De l'accord d'Alger. Ou bien pour vous, cet accord n'existe plus.
Mais c'est tout le papier, mais il est caduque depuis un bon moment. Au début de la transition, nous avions parlé de relecture intelligente. Mais en réalité, tout le monde savait. Un texte est bon quand c'est applicable. Okay. Mais un texte, pendant pratiquement une décennie qu'on n'est pas arrivé à mettre en œuvre.
On a eu une paix, même si elle est précaire.
Non.
Ça aussi, il faut le dire.
On a eu une paix parce que les autorités militaires ont fait leur travail aujourd'hui. Sinon, on n'a pas eu de paix. On n'a pas eu de paix avec cet accord-là. On n'a jamais eu de paix. Le Mali, ça a chauffé de tout le temps. Et de tout le temps, nous étions revenus à la case de départ. C'est pourquoi moi, je dis aujourd'hui qu'il est grand temps. On n'a pas besoin de l'Algérie pour régler nos problèmes. Ils doivent se maintenir en bon ami du Mali, comme les autres pays voisins, comme le Niger, le Burkina, etc. Même la Côte d'Ivoire, entre autres, même si on sait que le vieux... vraiment, on dit merci à l'Algérie. Okay. Si ça ne dépendait que de moi, les autorités doivent être claires par rapport à ce positionnement aujourd'hui, dire... nous vous en remercions.
Oui, l'ambassadeur a été rappelé, on a convoqué, je veux dire, l'ambassadeur du...
J'ai vu également qu'ils ont fait dans le sens de la réciprocité, mais on n'a pas besoin. Aujourd'hui, franchement...
Est-ce que vous ne craignez pas une brouille diplomatique entre le Mali et entre Bamako et Alger, non?
Mais
si le dossier n'est pas mal bien géré.
De toute façon... L'Algérie défend ses intérêts, le Mali défendra ses intérêts. Et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les phases où il faut forcément quelqu'un qui va nous faire l'introduction, et nous faire introduire chez le patron français, chez le patron américain, etc. Nous n'avons plus besoin de ça. Nous avions décidé de prendre notre destinée en main. Donc, si tel est le cas, moi, je pense que nous devons remercier l'Algérie pour tous les efforts que un médiateur reste un médiateur. Okay. Et moi, je ne vois pas d'un mauvais un Goodluck Jonathan qui était un grand touriste et un grand, comment on appelle ça, un grand admirateur et amoureux du Mali. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, il faut que nous intégrons ce fait que les problèmes du Mali doivent être réglés au Mali.
Ok, qu'est-ce que vous pensez aussi de la visite de l'imam Mahmoud Duco, là-bas à Alger?
Je ne peux pas qualifier cette visite. Okay. C'est un religieux, je le vois dans les mosquées. Okay. Bon, c'est quand même un leader religieux. S'il a été invité, bon... Les contours de cette invitation, je ne les maîtrise pas. Et demain, si les autorités algériennes venaient à m'inviter, ça dépendra de mon agenda.
Okay. Vous allez partir, vous allez donner un avis favorable quand on vous invite?
Non, ça dépend de mon agenda à moi.
Mais vous ne trouvez pas d'inconvénient qu'ils se rendent en Algérie, non? À Alger.
C'est le contexte qui amène peut-être des doutes aujourd'hui. Le contexte.
L'exécution, oui.
Voilà. Mais en temps normal, ça peut même passer inaperçu. Okay. Et vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux n'aident pas en réalité. Ils veulent toujours mettre
de l'huile sur le feu.
De l'huile sur le feu. Et il y a des États qui travaillent à cela aussi.
Okay. Est-ce que vous pensez que le Mahamoud Diko peut jouer un rôle important dans le retour de la paix au Mali, compte tenu de sa posture
Vous savez, pour moi, la paix au Mali, ça dépendra que des Maliens. Okay. Nous n'avons plus besoin de cette médiation algérienne. Moi, je le dis et je l'assume. Okay. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de médiateurs. Les questions de famille se règlent en famille. C'est ça le Mali. Et il faudrait que nos parents du Nord, nos parents du Sud, tous ceux qui ont pris les armes contre le Mali, qui déposent les armes, qui reviennent dans la famille. On peut s'égarer, on peut avoir des trucs, mais quelque part, aujourd'hui, moi, je pense que nous n'avons plus besoin. Le Mali d'antan n'est plus le Mali d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'une des forces de cette transition, c'est que nous avons pris les taureaux par les cornes. C'est ça le plus important.
D'accord. Parlons aussi de cette interpellation, mais mandat mise sous mandat de dépôt de ce jeune guide religieux, Chouala Bayaya Haïdara, que vous connaissez certainement. Il était avec vous dans la lutte du M5 RFP. Aujourd'hui, il est en prison. Est-ce que vous avez suivi l'actualité?
Je l'ai suivi en flash, parce que je n'étais pas là au moment des faits, j'étais en déplacement. Mais qu'à cela ne tienne, moi je pense qu'il ne faut pas envenimer les choses. La justice fera son travail et nous prions Allah Subhanahu wa Ta'ala pour que vraiment chacun dans sa douleur puisse retrouver la paix.
Mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que il y a beaucoup d'arrestations, il y a beaucoup de mandats de dépôt depuis cette transition? Qu'est-ce que vous répondez?
Mais vous savez, la loi reste la loi. Quand on
certains
était...
Certains disent que c'est comme cette transition est en train de d'étouffer toutes les voix discordantes,
Vous savez, quand Assimi disait aux gens que... je me souviens encore, il disait que vous avez demandé à ce que justice soit rendue, je vais rendre justice, mais ne revenez plus me voir pour intervenir ou intercéder. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas vouloir de quelque chose et de son contraire. Vous savez, quand on a vu un moment qu'il y a eu des chaussettes qui avaient été payées, je ne sais pas à combien, tous les Maliens étaient indignés à l'époque. Mais si on met la main sur des individus allant dans ce sens, mais aujourd'hui, on pense que l'État ne fait pas son travail. Moi, je pense que la justice, elle doit être équitable. Okay. Et cette justice aujourd'hui, c'est vrai, elle cherche ses repères. Okay. Elle est en train de faire ce qu'elle peut. Mais il faut renforcer, il faut continuer. Autant nous avions renforcé l'armée, moi je pense qu'au niveau de la justice aussi, il faut renforcer. Mais dire qu'il y aura une justice à deux vitesses, valable pour toi et pas valable pour Y, non, moi je pense que...
Donc pour vous, la justice est rendue aujourd'hui, vous êtes fier de la justice, du rendement du service de la justice?
Peut mieux faire, mais je pense qu'il y a eu des avancées, en tout cas, sur certains aspects.
Certains diront même que parler aujourd'hui est devenu difficile, qu'il faut avoir même une licence aujourd'hui
pour parler. Mais nous sommes en train de parler. Il ne faut pas insulter les gens. Quand vous voyez des propos, certains propos, vous comprenez aisément que ces propos ne sont pas de nature à souder les liens du pays, les liens des... Vous savez, moi, je dis quelque part. Aujourd'hui, je ne suis plus pratiquement sur les réseaux sociaux parce que j'ai compris que de plus en plus, ce n'est pas des informations correctes qu'on reçoit, mais c'est souvent de la haine, souvent des propos d'une certaine nature que les gens sont en train de mettre, en tout cas dans un sens pas constructif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en bon malien, nous devons faire des propositions, essayer d'amener le débat à un niveau où les gouvernants peuvent se remettre en cause et quelque part que des solutions puissent être trouvées pour nous sortir de cette situation.
Ok. Oui, parlons maintenant de l'EDM, hein, l'énergie du Mali. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, s'il y a un bilan qui n'est pas bon sous cette tension, c'est justement EDM, Jamil Bitar. Hein. Et je suis heureux de vous poser cette question parce que vous êtes aussi un spécialiste. Votre thèse, hein, c'est certainement ça porte sur l'énergie. Donc c'est un domaine que vous maîtrisez beaucoup aujourd'hui. Hein. Et l'EDM, c'est Bamako, quand on circule dans la circulation, quand on est dans la circulation de Bamako, on est dans le noir, dans les quartiers. Bamako ressemble aujourd'hui à une ville obscure. Hein. Ce n'est pas bon pour l'image de la transition, Jamil Bitar.
Mais c'était prévisible. Le mal, il est plus profond. Ne regardons pas la plaie qui saigne. Le mal, il est plus profond. Okay. Les problèmes de EDM, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, on n'a pas pu gérer ce problème parce qu'il n'y avait pas une volonté politique affichée pour régler de façon définitive. Vous savez, les Russes, nos amis, entre autres, ils ont pris un quinquennat entier pour régler définitivement la question énergétique. Okay. Un mandat, hein? Oui. Un quinquennat. Vous savez, il faut savoir qu'est-ce que nous voulons. Il n'y aura pas de développement sans énergie. Aujourd'hui, nous sommes dans le thermique. Nous ne sommes pas producteurs de pétrole. Les groupes que nous disposons aujourd'hui, c'est pratiquement amorti depuis des années. Les consommations vont augmenter, les maintenances vont augmenter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes dans l'urgence. Et dans l'urgence, nous sommes dans une transition où des États capables de nous venir en aide aujourd'hui ont pratiquement fait un blocus. Malheureusement pour nous également, aujourd'hui, et force est de reconnaître que pour les finances aujourd'hui, pour les questions d'approvisionnement, etc., il y a des difficultés. Mais mieux que tout ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut, de façon correcte, se donner du temps encore, avec une projection, parce que l'énergie...
Sur combien de temps?
Il faut 2 ans pour régler les questions énergétiques au Mali. Il nous faut 2 ans. Okay. On peut avoir une...
Deux ans, vous ne serez plus là, logiquement. Ou bien vous continuez, vous allez...
Et que Dieu m'en garde, moi je serai toujours là.
Non, je ne parle pas de vous, je parle de... je sais Dieu que vous êtes, très vieux.
Non, oui, mais je parle de vous. Bon, je dis que ceux qui gèrent aujourd'hui sont plus jeunes que moi.
Je parle de...
Ils sont plus jeunes.
Non, par rapport à la... Je parle de la durée de la transition, c'est ce que je veux dire.
Oui, bon, quelque part, c'est Dieu qui sait ce qui va se passer entre autres. Mais moi, j'estime aujourd'hui qu'il nous faut une centrale nucléaire qui pourra non seulement ravitailler le Mali, le Burkina et le Niger. C'est l'énergie le moins coûteuse dans le monde. Nous avions des possibilités du solaire, mais les champs solaires leur entretien. Les gens parlent du soleil, mais quelque part, il y a beaucoup de non-dits derrière. Mais ce qui est évident, moi je pense qu'aujourd'hui, l'état du Mali, peut-être avec nos alliés aujourd'hui, doit mettre en place une équipe. Une équipe qui va se concentrer et essayer vraiment de faire un montage allant dans ce sens. Nous avions un partenaire fiable, qui est la Russie aujourd'hui, qui est champion dans le domaine. Et nous avions de l'uranium déjà qui est exploité au Niger, et éventuellement il y a des possibilités qui est au Mali et au Burkina. Moi je pense que cette question, et nous pouvons la régler de façon définitive. Maintenant, dans l'urgence, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des groupes.
Des groupes électrogènes. Hein?
Des groupes électrogènes.
De qualité.
De qualité. Okay. Et il nous faut du fioul pour pouvoir peut-être satisfaire. Parce que la demande aujourd'hui, elle va croissant.
Mais est-ce que pour vous, puisque vous êtes un spécialiste du domaine, bon, est-ce que vous êtes là en train de dire que la faute, ce n'est pas les autorités de la transition, c'est qu'ils sont venus trouver le problème?
Oui.
C'est ce que vous êtes en train de dire.
Oui.
Mais sauf que même avec les régimes précédents, même si on suppose que ces régimes-là étaient dans la mauvaise gouvernance, on avait au moins l'électricité pendant les périodes de pendant les périodes hivernales, la période hivernale et même pendant cette période. Décembre déjà, non. Des coupures, on ne comprend pas. Mais est-ce que vous pouvez, vous, les spécialistes,
oui,
vous
nous aider à comprendre? Ça, c'est dû au transport. Okay. De l'électricité, parce qu'il y a moins de perdition. Mais ce qui est évident aujourd'hui, il faut reconnaître quand même qu'on est axifié économiquement. Vous êtes d'accord avec moi?
Est-ce que le peuple le sait?
C'est une manière de communiquer.
Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas d'argent?
Mais vous le savez.
Non, je vous pose la question.
Non, moi je le dis aujourd'hui. Oui.
Un ami me disait qu'il est allé faire un retrait d'un certain montant, qui n'est pas beaucoup, mais on lui dit clairement qu'il n'y a pas d'argent. Oui. Mais c'est que vous, c'est votre quotidien, allez-y.
Mais c'est ce qui se dit, mais quelque part, vous savez, j'ai dit que la BCAO a axifié pratiquement nos banques, les banques de la place, et les ressources du pays, et tout ce que nous avions aujourd'hui. Moi, je veux dire quelque part que c'est pourquoi j'ai dit que le ministre des Finances, il doit être félicité. Parce que on nous a mis tellement de pression aujourd'hui. C'est ça la grande question que nous avions à régler. S'il y avait de la fluidité et que les finances tournaient normalement et que les emprunts dont il est question, parce qu'il n'y a pas de miracle, hein. Soit vous avez des ressources pour atteindre vos objectifs, des ressources propres à vous, soit vous vous endettez. Mais là où vous devez vous endetter, si on ferme la porte, c'est comme une entreprise, un état, c'est comme ça. Et malheureusement aujourd'hui nous sommes dans une situation.
Mais est-ce que ça, c'est pas une raison pour vous, puisque vous êtes conseillé financièrement, est-ce que pour vous, mais est-ce que ce n'est pas une raison objective,
mais c'est
de laisser à ceux qui peuvent peut-être avoir cette possibilité-là?
Mais ça, c'est pas avoir, parce qu'ils ont d'autres intérêts qu'ils veulent nous imposer. Et c'est comme du chantage. Ce n'est pas... Nous voulons notre liberté. Nous voulons... Donc, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit aux gens. Okay. C'est une question de choix. On se laisse aller, on est à la merci de tout le monde, et ça va aller dans tous les sens, et chacun va applaudir dans son coin. Il n'y aura pas de classe intermédiaire, il y aura des riches et des pauvres. Donc quelque part, notre économie va vaciller, ou nous voulons être corrects avec nous-mêmes, avoir une projection sur l'avenir, et préparer notre pays pour que nous rentrons dans un cycle vraiment correct, et dire non à certaines pressions. Parce que c'est du chantage, oui, mais, de la mais, pression.
Mais Jamil Bitar, mais si vous n'arrivez pas à donner l'électricité aux Maliens, à un moment donné, ils vont dire, ils vont, même si le citoyen moyen qui ne comprend pas le mécanisme, mais, que vous n'êtes pas capable de répondre à la demande sociale.
Aujourd'hui,
est-ce que vous ne craignez pas ça?
Aujourd'hui, il y a des actions en cours, okay, pour régler de façon intelligente et définitive ces questions d'électricité. Okay. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Moi, je l'ai dit dans mon intervention, j'ai dit, si aujourd'hui on questionnait les Maliens pour demander entre aller demain aux élections et avoir de l'électricité, je pense que 90% des Maliens va faire le choix.
Mais ils veulent de l'électricité dans l'immédiat. Pas, voilà, parce qu'ils payent aussi pour avoir... Oui. On ne leur donne pas l'électricité gratuitement. Ils payent pour avoir l'électricité,
oui,
ça aussi, il faut le dire.
Oui, oui. Et nous voulons non seulement de l'électricité, mais nous voulons de l'électricité à moindre coût. Okay. C'est ça le plus important. Okay. Et aujourd'hui, et tout le monde se rend compte, ceux qui ont les groupes électrogènes, tout le monde criait que EDM était très cher, mais aujourd'hui, ceux qui consomment du gasoil ou de l'essence pour avoir de l'électricité, ils comprennent que, vraiment, c'est pourquoi... L'État du Mali est toujours intervenu dans... Et il faut restructurer rapidement EDM. Parce que...
Il y a eu aussi des nominations à l'EDM. Hein. Il y a eu des gens qui ont été... on a pris des gens. On parle de des milliers de personnes, hein, sous cette transition qui travaillent à l'EDM.
Je n'ai pas le dossier, mais pour restructurer une entreprise qui est en difficulté, ce n'est pas les recrutements qu'il faut. Et... Dans une entreprise, généralement, quand on doit redresser une entreprise, comment on appelle ça ? Il faut soulager l'entreprise, et c'est ce qui amène le plus souvent au remerciement d'une bonne partie du personnel et de regarder dans les charges fixes ce que nous pouvons enlever. C'est vrai, l'État du Mali. Et sans l'État du Mali, EDM serait déjà KO. Moi, je pense que... Et il faut libéraliser aussi l'électricité. Okay. On ne doit pas rester dans un monopole éternel. Okay. Moi, je pense qu'il faut créer deux sociétés, c'est-à-dire qu'une société de production et une société, en tout cas, de distribution et de vente. Donc, ça va permettre de bien contrôler. Okay. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes dans une situation vraiment où les entreprises souffrent. Moi-même qui suis assis devant toi, et les groupes dont nous disposons, c'est pour un relais simple. Mais si ça doit travailler 24 heures sur 24, vous savez, c'est difficile.
Donc c'est intenable.
Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui...
Est-ce que c'est le prix à payer aussi pour la souveraineté? C'est le prix à payer pour vous?
Peut-être. Peut-être. Okay. Peut-être, mais si c'est le prix à payer, moi, je l'accepterai volontiers.
Ok, mais vous avez les moyens de supporter et les autres qui n'ont pas les moyens de supporter, comment ils vont faire?
Non, je ne sais pas que j'ai les moyens. Moi, je travaille pour les gens. Vous savez... Je suis un industriel, je travaille pour les gens et le coût de production aujourd'hui a augmenté pour moi. Maintenant, quand ça augmente, vous êtes obligé d'augmenter les prix de vente. Mais malheureusement pour nous, les clients veulent avoir toujours au même prix. Okay. Nous continuons de supporter. D'accord. Mais si c'est le prix à payer, moi, je pense que quelque part, nous allons continuer à payer.
Oui, Jamil Bitar, parlons maintenant de l'AES, hein, l'Alliance des États du Sahel. On va finir avec l'Alliance des États du Sahel. Pour vous, c'est une bonne chose, une bonne option pour le pays, pour le Mali?
Oui, mais ce n'est pas une surprise pour moi. Okay. Et je dis, c'est les oiseaux d'un même plumage qui volent ensemble. La CEDEAO, c'est une entité à l'origine qui était économique, maintenant qui s'est transformée carrément en entité politique. Mais qu'à cela ne tienne, vous comprendrez aisément également avec moi que le Mali, le Burkina, le Niger, nous sommes le même peuple, pratiquement. Ces frontières qui nous ont été imposées pratiquement par le colon français, et ce partage a été fait ailleurs. Okay. Et aujourd'hui, si nous nous retrouvons, moi, je pense que On doit plutôt jouer à la solidarité, au partage. Et je profite de l'opportunité qui m'est donnée pour remercier les autorités de transition du Niger qui ont accepté de donner du fioul, du carburant au Burkina et au Mali. Okay. Et essayer d'alléger un peu les souffrances. Moi, je pense que, et nous aussi, nos différentes contributions, je pense que ces trois pays, il y a un petit maillon qui manque, c'est la Guinée. Okay. Et j'ai pensé longuement que la Guinée allait se retrouver avec nous, mais malheureusement, bon, peut-être ça va venir avec le temps. Okay. Mais ce qui est évident aujourd'hui, en tout cas, la CEDEAO, pour moi, c'est un fin de cycle également.
Okay.
Ils sont arrivés à leur apogée et aujourd'hui, la peur a changé de camp.
Okay.
Vous avez compris les déplacements du patron de la BCAO. C'est pas fortuit.
Okay.
Et vous avez compris également que même au niveau de certains chefs d'État, il y a quand même une rétention qui se fait sentir. Et lors du dernier sommet, vous avez compris qu'il y a certains qui ont brillé surtout par leur absence. Donc moi, je crois qu'on est dans une situation aujourd'hui où, en tout cas, moi, je salue l'initiative et je souhaiterais vraiment que les populations y adhèrent, en tout cas de façon volontaire, mais avec beaucoup plus d'esprit, de partage et surtout des liens de fraternité.
Ok, les liens de fraternité. Jamil Bitar, on est pratiquement à la fin de l'émission. Si vous avez un message pour les Maliens qui nous regardent ce soir sur leur avenir, l'avenir de la transition, sur leur quotidien, quel est le message de Jamil Bitar pour les Maliens qui, il faut le dire présentement, et vivent dans des conditions souvent très difficiles, avec la vie chère et aussi avec les coupures d'électricité.
Moi, je formule d'abord des vœux pour notre nation, pour le pays, pour les Maliens, pour nos voisins. Et après ces vœux, je veux, par la même occasion, demander aux populations de ne pas se tromper. Aucun bien ne peut être acquis facilement dans la vie. C'est dans la douleur. Dieu a dit à la femme, tu enfanteras dans la douleur. Et la femme n'a pas de bonheur autre que d'avoir un enfant. Et nous, aujourd'hui, c'est vrai que tout n'est pas rose, mais nous venons de très loin. Et aujourd'hui, je pense que le train est en train de rouler sur les rails, de façon, en tout cas, correcte. Et dans les jours à venir, nous serons dans un Mali radieux. Et moi, j'ai bon espoir, je ne suis pas un pessimiste. Et je souhaite vivement, en tout cas, que nous nous donnions la main, que nous regardons tous dans la même direction. Et s'il plaît à Dieu, avec les bénédictions, tôt ou tard, les résultats vont se faire sentir. C'est comme quand vous plantez un arbre aujourd'hui. Les fruits, ce n'est pas demain matin. Nous sommes en train de faire un travail sur la durée. Et si c'est le Djeninga Nimi là, moi je pense que nous n'en serons pas là aujourd'hui. En tout cas, remercier non seulement vous, Ataïr, la direction de Djoliba qui œuvre tous les jours à nous donner les bonnes informations et profiter encore une fois de plus de te dire merci.
Merci. Merci beaucoup, Jamil Bitar. Vous êtes un ami de la presse. Voilà, c'est toujours disponible pour la presse. Vos amis, vos meilleurs amis sont dans la presse aussi depuis tout temps. Merci pour votre et disponibilité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission, émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Djoliba TV News. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 10h et le samedi à midi. Au revoir et à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission En toute liberté. Au revoir.
Liberté.